Bonjour à tous, c'est François Langlais, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de Langlais Co.
Bonjour à tous, c'est Catherine Mangin. Chaque semaine, je dialogue avec François sur les mutations, les évolutions qui résultent de la crise du coronavirus afin de mieux comprendre comment l'économie s'adapte au fil de la pandémie. À la surprise générale, les salariés d'Amazon sur le site de l'État américain d'Alabama ont voté contre l'installation d'un syndicat. C'est le dernier épisode en date d'une bagarre pour réformer le modèle social de l'e-commerce, François.
Oui, il s'est déroulé un vote dans l'entrepôt de Bessemer. C'est dans l'Alabama, c'est l'un des 800 sites d'Amazon aux États-Unis. Et les salariés ont voté pour ou contre l'arrivée d'un syndicat afin de défendre leurs droits au sein de cette entreprise. C'est un vote qui a duré 2 mois, parce qu'il s'est fait par correspondance à cause des contraintes sanitaires et qui a mis aussi assez longtemps à être dépouillé. Résultat sans ambiguïté, 71% des votants disent non au syndicat. C'était en fait une branche de l'industrie, du commerce de détail des États-Unis qui se présentait au suffrage des salariés d'Amazon. Et la proportion de votants, elle n'a pas été massive, mais enfin, elle a été quand même de 55% sur les 6000 salariés de l'entrepôt, donc c'est pas un résultat anecdotique. En fait, ce vote était devenu un enjeu national, parce qu'il avait fait l'objet de beaucoup de commentaires politiques, médiatiques, et notamment de la part du président Joe Biden. C'était sans précédent, mais il a fait une intervention télévisée pour demander à Amazon de laisser les salariés voter librement et, disons, maîtriser leur destin syndical, parce que il y avait des soupçons d'intervention d'Amazon qui auraient été évidemment contre la tenue du vote et en tout cas contre le fait qu'un syndicat s'installe chez eux. Bernie Sanders, aussi le leader de la gauche en quelque sorte, qui avait été lui-même candidat à l'élection présidentielle, est lui venu rendre visite aux salariés pour les exhorter à voter et à voter bien sûr oui. Parce que derrière ce vote, il y avait une question assez importante, c'est quelles règles sociales pour la nouvelle économie qui s'est développée un petit peu en dehors de tout cadre, et notamment avec des emplois qui sont quelquefois précaires ou des conditions de travail contestables. Et Amazon, compte tenu de son poids relatif dans la nouvelle économie, c'est évidemment de loin le premier, aurait joué le rôle de précurseur, et on aurait pu imaginer que les règles éventuelles adoptées par Amazon s'étendent ensuite à l'ensemble du secteur. Oui, à l'inverse, Amazon s'est mobilisé aussi de son côté, sous des formes d'ailleurs assez baroques quelquefois, parce que les syndicats faisaient campagne, évidemment, pour inciter les salariés à voter pour eux. C'était interdit de le faire au sein de l'entreprise. Du coup, ils avaient pris l'habitude de solliciter les salariés au feu rouge, juste à la sortie de l'entrepôt, au moment où ils patientaient quelques secondes pour leur remettre des tracts. Et Amazon aurait demandé que le feu rouge soit raccourci, de façon à empêcher justement que la campagne ne se tienne. Il y a eu aussi toute une polémique sur la façon dont le vote s'est tenu, parce que Amazon avait installé à l'extérieur de l'entreprise une boîte postale, en quelque sorte, dans laquelle les salariés mettaient leur bulletin. Et il y avait une caméra de surveillance qui et son champ intégré à la boîte postale. Et le syndicat, évidemment, tire argument aujourd'hui pour contester le résultat en disant finalement ça s'est pas déroulé dans le secret qui est souhaitable pour ce type de consultation.
Mais alors, qu'est-ce que les salariés voulaient vraiment changer chez Amazon ?
Pas le salaire, parce que Amazon paye ses employés relativement bien, c'est aux alentours de $15 de l'heure, alors que les pratiques dans le commerce sont inférieures de 25 à 30%. Donc il s'agissait pas d'être mieux payé, mais c'était plutôt les conditions de travail qui posaient problème, et notamment le fait que dans cet entrepôt gigantesque qui prépare les commandes, il y a des caméras qui surveillent les salariés, qui vérifient qu'ils sont sans arrêt en train de travailler, enfin qu'il n'y a pas de temps mort. Et notamment, c'est ce que disaient les syndicats, il y a un système d'intelligence artificielle qui permet non seulement de reconnaître les gens, mais de détecter s'ils ne sont pas en mouvement pendant plus de 4 minutes. Et à ce moment-là, on les convoque et ils sont susceptibles de recevoir un blâme. Donc ça posait évidemment des problèmes de stress, rien que pour aller aux toilettes. Il faut quelquefois traverser ce gigantesque entrepôt, et 4 minutes, on n'a pas forcément le temps de le faire, évidemment. Donc certains se plaignaient beaucoup de ces conditions de travail assez rudes. D'autant que le business d'Amazon s'est amélioré beaucoup avec l'épidémie, puisque le e-commerce a progressé 40% en plus de chiffre d'affaires au dernier trimestre 2020 par rapport à la même période de l'année précédente, des bénéfices doublés. Au total, on le disait, 800 entrepôts aux États-Unis. avec 500 000 recrutements en 2020. C'est considérable. Il n'y a probablement pas une entreprise au monde qui a recruté autant qu'Amazon en 2020. Au total, elle a maintenant 1 300 000 salariés, dont près d'un million aux États-Unis. Ça en fait non pas le plus gros employeur américain, mais probablement le deuxième derrière Walmart, qui est une chaîne de distribution importante, et le deuxième en passe de devenir le premier. Alors, ce conflit du travail ne concernait pas les livreurs d'Amazon, qui eux sont indépendants et employés par des entreprises sous-traitantes d'Amazon, et dans des conditions, là pour le coup, d'emploi indépendant, qui sont quelquefois extrêmement difficiles, et avec une demande de productivité très élevée. Et là aussi, il y a eu une polémique récente, hein, puisque certains sont plaints de ne pas pouvoir aller aux toilettes, justement, dans leur journée, qui était tellement tendue en termes de plan de charge. Amazon s'en est moqué dans un premier temps, pour finir par reconnaître qu'effectivement, il pouvait y avoir certains problèmes, que c'était plutôt lié, dit-elle, aux embouteillages et aux sous-traitants qu'à elle. Reste que les conditions de travail de ces salariés indépendants n'étaient pas concernées.
Mais alors, au final, pourquoi est-ce qu'ils ont voulu ce quota, puis que finalement, ils ont voté non, les salariés ?
C'est vrai que pour nous, Européens, c'était étrange, parce qu'on se disait, il n'y a pas photo, quoi. À partir du moment où, un, il y a un scrutin, deux, une mobilisation nationale, l'approbation implicite du pouvoir politique, en France, probablement, on aurait eu un autre résultat. Pour les Américains, il y a deux choses qui ont joué. D'abord, comparé aux autres employeurs, on le disait, au moins pour ce qui est du salaire, la situation est relativement bonne. L'assurance maladie aussi, c'est quelque chose qui compte, hein, et un employé d'Amazon est couvert dès le premier jour, à l'instar de ce qui se passe chez nous, mais c'est une situation qui n'est pas si fréquente aux États-Unis. Et puis, Amazon offre des opportunités de travail à des régions qui n'en ont pas toujours, hein, et ou même qui, pour certaines, n'en ont plus. Donc, ça a probablement joué. Et puis, il y a eu aussi un autre élément, paradoxalement, l'extrême médiatisation a probablement joué en défaveur de la cause syndicale, parce que ils en ont fait beaucoup, et ça a causé beaucoup de désorganisation autour de l'entreprise, les salariés étaient ultra sollicités dès qu'ils s'approchaient, et ajouté à cela, la stratégie syndicale a probablement été mauvaise. Le syndicat a fait une espèce de confusion délibérée entre la cause sociale chez Amazon et puis Black Lives Matter, qui est la cause des travailleurs noirs aux États-Unis, globalement des noirs aux États-Unis, de la condition noire aux États-Unis, à la suite de la mort de cet homme qui a été tué lors d'une interpellation policière, parce que 75% des employés d'Amazon en Alabama sont noirs. Mais cette confusion a déplu aussi à un certain nombre de salariés, même à des noirs, qui considéraient qu'on mélangeait des choux et des carottes, que c'était pas la même question et qu'ils n'avaient pas forcément envie de voir revenir le carnaval de la gauche ou même de la gauche américaine, c'est-à-dire la défense outrancière quelquefois des minorités au détriment de l'analyse des véritables déterminants qui, en l'occurrence, n'avaient pas grand-chose à voir avec la question raciale.
Bon, alors François, la leçon de cette histoire, ça veut dire que donc rien ne va changer dans le modèle social des grandes plateformes ?
Écoutez, si, on peut penser quand même que ça va évoluer parce qu'il y a d'autres signes d'évolution. D'abord, Uber, qui est la plateforme de taxi, a été condamné au Royaume-Uni par la Cour suprême, justement, à intégrer ces chauffeurs qui jusqu'ici étaient indépendants, à les intégrer comme salariés, notamment à leur donner des congés payés. On a vu aussi l'introduction en bourse récente de Deliveroo, c'est une société de livraison à domicile qui porte les repas. On en voit pas mal, hein, on voit les cyclistes dans nos rues en ce moment. Introduction en bourse qui a été complètement ratée, notamment à cause de la méfiance des investisseurs devant le modèle social des Deliveroo, qui est assez dur, justement, là aussi, hein, les livreurs sont indépendants. Et les investisseurs craignaient que ça ne débouche, justement, sur des controverses juridiques, éventuellement des condamnations. Et du coup, le titre de Deliveroo, les premiers jours, a connu un véritable plongeon, alors qu'on attendait, au contraire, une introduction en bourse triomphante. En plus, il y a un autre élément qui est d'ordre politique, mais il y a un projet de loi aux États-Unis qui s'appelle PRO, Protecting the Rights to Organize. En fait, protéger les droits de s'organiser, donc de constituer un syndicat qui émane de la majorité démocrate et qui y voit le pendant, la contrepartie du plan de relance et qui veut que ça soit approuvé par le Sénat bientôt. Ça a été voté par la Chambre récemment. Donc, on peut penser que la pression va continuer parce que dans le viseur des démocrates, il y a justement le modèle social des plateformes et la nécessité de le garantir, disons, de le rendre justement plus favorable aux salariés. On est un peu dans une période qui ressemble à celle où on a créé le salariat, hein, au début du XXe siècle, parce qu'auparavant, bon nombre d'employés étaient payés à la tâche en fonction de la demande. Et puis, il y a eu des luttes sociales qui, petit à petit, ont débouché, au moins dans les grandes entreprises. Ford, le constructeur automobile, en était une, sur la création d'un statut de salarié qui, petit à petit, s'est étendu à l'ensemble de l'économie. Et au fond, l'entreprise a compris à l'époque qu'il fallait qu'elle fasse du stable, du solide pour ses salariés, et que c'était son rôle, même si elle-même n'était pas assurée de stabilité dans les commandes, c'était son rôle de sécuriser la force de travail de façon à d'abord se l'attacher, et puis à bénéficier de gens compétents, formés, motivés, investis dans leur travail. Mais ça a été une prise de conscience qui a nécessité plusieurs décennies. On peut penser qu'on est un petit peu dans le même type de moment. Ça pose aussi quand même aussi une question aux syndicats américains. Leur échec montre que la stratégie qu'ils avaient choisie n'était pas la bonne. Qu'au fond, c'est un peu les syndicats à la papa, matinée justement de revendications liées à la diversité, mais qu'il faut qu'ils soient plus à l'écoute de leurs mandants, hein, s'ils veulent tenir des résultats dans les urnes. En fait, ils ne parlent probablement pas assez des questions qui intéressent vraiment les salariés, notamment la fameuse question des opportunités économiques et le fait que quand une grande entreprise comme Amazon s'installe dans un endroit un peu désolé, bah, c'est quand même quelque chose de favorable pour la région.
Alors, ce travail non salarié, est-ce que l'on sait aujourd'hui quelle part il représente dans l'emploi dans nos pays ? On a l'impression que c'est quelque chose qui est en croissance partout. Est-ce qu'on a raison ou est-ce qu'on a tort de penser ça ?
Écoutez, je le pensais aussi, de façon intuitive, hein, au vu de l'actualité. Ça fait un moment qu'on dit, mais est-ce que le salariat ne va pas disparaître ? C'est absolument faux. En fait, l'emploi salarié baisse partout, y compris aux États-Unis, hein, ce qui est quand même singulier, sur les 20 dernières années, sauf dans un pays, le Royaume-Uni, où il augmente au contraire et où il atteint aujourd'hui 15 à 16% des actifs. C'est 12% chez nous, hein. En France, c'est d'ailleurs plus qu'aux États-Unis, selon les chiffres de l'OCDE, ce qui est une autre surprise. Sur longue période, alors là, la tendance est beaucoup plus nette encore, parce que dans les années 70, on avait quasiment 25% des actifs qui étaient des indépendants. Et l'économie s'est transformée sur la dernière moitié de siècle, hein. Il y a eu évidemment plusieurs évolutions. D'abord, le remplacement des petits commerçants par les supermarchés, et ça a transformé des indépendants en salariés. Et puis, phénomène là structurant très important, la disparition des exploitants, des petits exploitants agricoles, avec la fusion des exploitations, justement, qui là aussi a donné naissance à des salariés. Et puis, l'extraordinaire productivité qu'a connue l'agriculture, qui a fait diminuer le nombre de salariés dans ce secteur dans la deuxième moitié du XXe siècle. Donc, le XXe siècle a été celui de la salarisation progressive des forces de travail, de façon très spectaculaire, et il n'y a pas de rupture majeure au XXIe siècle, au moins sur les 20 premières années. C'est vrai quand même, pour dire les choses comme elles sont, que depuis quelques années, ça remonte quand même, en France au moins, de façon marginale dans le tertiaire, mais on parle vraiment de l'épaisseur du trait, et c'est probablement lié au boom des plateformes, et notamment au boom de la livraison à domicile, et qui utilise justement beaucoup les non-salariés comme force de travail. C'est vrai aussi, de façon plus curieuse, dans le secteur non marchand, celui des associations. Mais vous voyez que sur un siècle, vraiment l'effondrement du travail non salarié est spectaculaire au profit des salariés et qu'il n'y a guère que dans les toutes dernières années et de façon très modeste qu'on voit repartir un petit peu le travail indépendant dans le secteur des services.
Vous pouvez retrouver cet épisode sur l'application RTL et sur toutes vos plateformes préférées.